Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Bon, vite une image, la première, c'est important. Que fait-on ? Darmanin, première sortie ? Bon, je vais dans un commissariat. Ah bah c'est parfait pour un ministre de l'Intérieur. Roselyne Bachelot, la culture, bah moi je vais au musée du Louvre. Ah bah super. Et vous, Dupond-Moretti, l'effet waouh du gouvernement Castex ? Bah je pensais à Dupont en prison. Parfait. Une visite à la prison de Fresnes. Emballé. Première sortie, premières images. Mais parfois, on change d'angle. À propos du nouveau garde des Sceaux, entendu hier à la télévision de Montréal.
Le quotidien de la chanteuse Isabelle Boulay, qui a eu 47 ans hier d'ailleurs, va changer considérablement. C'est que son conjoint des quatre dernières années, c'est un avocat français, Éric Dupond-Moretti. Il vient d'être nommé ministre de la Justice dans le remaniement ministériel du gouvernement d'Emmanuel Macron.
Macron, c'est important, un angle dans l'information. Au menu de Culture Média ce matin, le fait média du jour, la mauvaise passe des pigistes du journalisme. Les précaires du métier sont frappés de plein fouet par la crise aiguë qui touche la profession. Des journaux ferment, des emplois sont supprimés, les pigistes trinquent. Nous ouvrons le dossier dans 10 minutes. L'invité média du jour s'appelle Mathieu Gallet, l'ancien patron de Radio France à la tête désormais de la plateforme de podcast Magellan, change de positionnement, place au développement personnel et au nouveau pouvoir de la voix. Et au nouveau pouvoir de la voix. On va écouter la sienne. Dans la partie culture des 10 heures, le réalisateur Jean-Pascal Zadi, son film Tout simplement noir, aujourd'hui dans les salles, pourrait bien réveiller l'été cinéma. Drôle, très drôle, mais pas que. Dans le journal de la culture de Damien Cabrespine, Nick Cave en concert confiné et des Fashion Week en ligne. Une heure média, une heure culture, tout l'été sur Europe 1. Et ça commence maintenant. Et ça commence par le journal des médias. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, Martin.
Au sommaire ce matin, le grand retour de l'interview du 14 juillet à la télé. TikTok avec Macron, mais sans Hong Kong. Et un chemin de croix pour retrouver la confiance des lecteurs.
Les audiences.
Vous les attendez, les audiences.
Ah, mais j'attends que ça, moi.
Gros carton, c'est inattendu pour le téléfilm de France 3, Meurtre en Haute-Savoie, 4 millions de téléspectateurs. France 3 donc devant TF1 et Jurassic Park, 3 millions de téléspectateurs pour Jurassic Park. Et en fin de podium, France 2 avec Affaire conclue en prime time, 2 millions de téléspectateurs devant Sophie Davant que
ouais,
vous receviez.
C'est bien ou pas ?
Hier.
Ça va.
Juste moyenne pour
D'accord.
Sophie Davant.
Culture Média.
Et pour commencer ce journal des médias, on connaît le nom des journalistes qui vont interviewer Emmanuel Macron le 14 juillet.
Et c'est Gilles Boulot, présentateur des JT TF1 et Léa Salamé en charge des émissions politiques sur France 2. Ils ont été désignés par l'Élysée pour cette grande interview, nous rapporte Le Parisien. Anne-Claire Coudray de TF1 et Laurent Delahousse de France 2 ont aussi été proposés par les deux chaînes, mais ils n'ont pas été retenus. Ce sera le grand retour de l'interview du 14 juillet à la télé. Quand il avait été élu, le président de la République avait surpris tout le monde en mettant fin à cette tradition.
Emmanuel Macron qui ne choisit pas que les médias traditionnels pour s'adresser aux Français, Martin.
Pascal, vous l'avez sûrement vu, le président vient de publier sa toute première vidéo sur TikTok.
C'est quoi ?
Alors TikTok, vous savez, c'est ce réseau social qui cartonne chez les jeunes, Pascal. Il y a notamment ces défis qui font le tour du monde en quelques minutes où l'on voit les ados reprendre en playback et en dansant des tubes planétaires. Alors Macron, soyons très honnêtes, pour cette première vidéo, n'a pas dansé, ni n'a fait de playback, mais il avait un message pour cette première.
Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en.
Et pour ces félicitations, à cette heure-ci, la vidéo a déjà été vue plus de 6 millions de fois.
Pas mal, pas si mal.
C'est bien, en sachant qu'un journal télévisé, c'est dans ces eaux-là, on se dit que Macron a fait aussi bien sur TikTok.
S'il avait dansé, ça aurait été davantage. On reste toujours sur TikTok qui vient de prendre une décision très radicale.
Macron sur TikTok, mais à Hong Kong, l'application n'est plus disponible. Vous savez, Hong Kong, c'est cette petite enclave chinoise de 8 millions d'habitants. TikTok est prié sans attendre de se plier à une toute nouvelle loi décidée par Pékin. Le nom de cette loi, loi sur la sécurité nationale comme en temps de guerre. Alors pourquoi ces lois ? Cette loi, parce que depuis plusieurs mois, les jeunes se rebellent et descendent dans la rue pour demander plus de liberté. Avec cette loi, les autorités verrouillent désormais Internet. tout simplement, c'est radical. Les policiers à Hong Kong peuvent dorénavant arrêter n'importe qui appelant à manifester sur les réseaux sociaux ou grâce à des applications populaires telles TikTok.
Alors de quoi inquiéter le monde démocratique? De quoi inquiéter aussi les géants du web américain?
Parce que Google, Facebook ou Twitter, eux, sont encore disponibles à Hong Kong, mais doivent se soumettre à cette loi. Depuis plusieurs heures, ils ont l'obligation de donner à la police le nom et l'adresse de tout internaute suspecté de protester contre le pouvoir. Rien que ça. Google, Facebook ou Twitter risquent même de lourdes amendes et leurs patrons peuvent aller en prison s'ils tiennent tête au gouvernement chinois. Mais pour l'instant, les gens américains refusent en brandissant la liberté d'expression et les droits de l'homme. On ne sait pas si ce sera suffisant très longtemps comme argument.
Comment dit-on droit de l'homme en chinois? On ne le dit pas.
Silence.
On termine avec La Croix qui lance, le journal La Croix qui lance aujourd'hui la troisième saison de son podcast L'Envers du Récit.
Alors le concept est assez simple, un journaliste du quotidien nous dévoile les coulisses d'un reportage et la tambouille interne du journal. Ce n'est pas anodin que ce soit La Croix qui lance ce genre de podcast. Le quotidien scrute de près la confiance ou plutôt la défiance des Français envers les médias en prenant très régulièrement la température dans le pays. Et cette année, ce n'est pas très bon. 71% des Français n'ont pas le sentiment que les médias rendent mieux et davantage compte de leurs préoccupations. Et Jérôme Chapuis, en charge des podcasts du quotidien, nous en dit plus.
Le journal La Croix, chaque année, fait depuis 30 ans un baromètre de la confiance des Français dans les médias. Et l'intuition qu'on a eue il y a 3 ans, quand ce format a été créé, ça s'est transformé en conviction. C'est-à-dire expliquer déjà très simplement pourquoi on peut éprouver de la sympathie, éventuellement du désarroi, parfois même du dégoût pour tel ou tel événement, tel ou tel fait, telle ou telle source avec lesquelles on a pourtant à dialoguer. On explique notre démarche parce qu'on pense que c'est un gage de crédibilité et de confiance.
Épisode de L'Envers du Récit, Gauthier Vaillant revient sur son tour de France des maires avant les municipales. Le journaliste de La Croix veut partir plusieurs mois sur les routes pour rencontrer des élus souvent épuisés. Nous sommes en 2019. Problème, il n'arrive pas, Pascal, à trouver le numéro des maires.
Première découverte que j'ai faite au sujet des maires, c'est qu'ils sont super difficiles à contacter. Si vous n'avez pas leur numéro de portable, ça veut dire qu'il faut appeler la mairie. Vous tombez sur une secrétaire de mairie qui vous dit oui, qui prend note, mais bon... Et une fois que vous avez obtenu un accord de principe pour un rendez-vous avec un maire, il faut trouver un créneau dans son agenda. Et en fait, un maire, même dans un petit village, il est débordé tout le temps.
Voilà cet extrait pour nous. Pour vous, Pascal, en avant-première, L'Envers du Récit, c'est disponible dans quelques minutes sur le site de La Croix.
Merci beaucoup Martin Cangelosi et je vous dis à demain.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Quand les difficultés s'accumulent, ce sont souvent les plus fragiles qui trinquent. Les temps sont durs pour les pigistes, ces journalistes sans contrat rémunérés à la prestation ou au papier. Disparition pure et simple de certains journaux, suppression de postes en CDI, le virus a attaqué les recettes publicitaires et les plus précaires sont en danger. Julie Lalouette-Geffroy, bonjour.
Bonjour.
Vous coprésidez le collectif Profession Pigiste qui fête, si l'on peut dire, dans ces conditions un peu spéciales, ses 20 années d'existence. Ce coronavirus est assez meurtrier pour les journalistes pigistes. Est-ce que vous avez une idée de l'étendue des dégâts ?
Alors non, hein, on n'a pas de chiffres précis, mais bon, avec les remontées qu'on a, effectivement, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de pertes de revenus pendant la période du confinement et juste après. Et là, la grosse crainte, c'est sur l'après, sur à partir de septembre, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous l'avez dit, il y a des plans sociaux, il y a des baisses de recettes publicitaires, il y a le problème de Prestalis, distributeur de la presse. Du coup, les cartes sont un peu en train d'être rebattues pour la rentrée et on se demande bien ce qui va se passer en septembre.
Alors comme je le disais, les pigistes, hein, pour ceux qui ignorent comment fonctionne cette profession, ce sont ces journalistes qui sont payés à la prestation. Quel pourcentage de pigistes dans la profession de journaliste ?
Bon, alors, il n'y a pas de chiffres très très clairs et absolument définitifs. Néanmoins, en croisant plusieurs études, on arrive à peu près à un consensus pour dire qu'il y a 30% de pigistes. Donc ça veut dire que si on prend son journal, on enlève 30% des pages ou de son magazine. C'est quand même important, quoi. C'est une masse salariale qui est importante, qui fait vraiment partie des forces vives de la presse, quoi.
Alors puisque des plans sociaux sont en cours, ça veut dire moins de journalistes en CDD ou en CDI dans la profession, moins de pigistes. Alors comment se fait le travail? Vous avez une idée?
Bah, je me demande bien, parce qu'un journal sans journaliste, c'est compliqué quand même, quoi.
Des pigistes sont-ils en train d'abandonner ce métier, puisque ce métier les abandonne? Vous connaissez beaucoup de cas autour de vous?
Beaucoup de cas, non. Mais effectivement, ça pose des questions en termes d'organisation. Je pense pas particulièrement aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes diplômés plutôt, qui arrivent sur le marché du travail, où effectivement, le marché leur tend pas forcément les bras, là, pour les contrats d'été ni pour la rentrée. Donc effectivement, il y en a, en fait, qui vont essayer d'avoir un boulot dit alimentaire et essayer de faire des piges à côté, quoi. Donc effectivement, c'est un peu ce qui risque de se profiler, ouais.
C'est-à-dire que ça se sent dès la sortie de l'école de journalisme, une espèce de futur qui est d'un seul coup bouché. On le sent dès le départ.
Ah bah là c'est flagrant parce que là on termine ses études fin juin et généralement il y a des contrats d'été dans les rédactions donc pour juillet et août ça permet de se mettre le pied à l'étrier, de se faire connaître, de faire un petit peu de réseau pour avoir après un CDD, un CDI, une pige pour se lancer quoi. Donc là s'il n'y a pas de contrat d'été, c'est très compliqué de se lancer donc là c'est finalement il y a un faux départ en fait qui se fait pour cet été quoi.
Parfois, puisque certaines parutions disparaissent, j'ai cité Grazia, il y en a d'autres, il est fort compliqué pour les pigistes de se faire payer ce qu'il aurait dû. Comment faire? Vous avez des conseils?
Bah pour se faire payer, en fait, c'est une question de rapport de force, quoi. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour les pigistes, effectivement, il y a une précarité par l'instabilité économique, mais aussi par la multitude d'employeurs. Mais il y a l'autre versant, en fait, qui est la question de la liberté. Et en fait, c'est des journalistes qui choisissent leur sujet, qui peuvent être spécialisés. Et du coup, quand on est sur une logique où on choisit d'être journaliste pigiste, car on ne subit pas forcément ce mode de rémunération, c'est un choix. Je connais des gens dans l'association qui ont quitté des CDI à temps plein en rédaction pour devenir pigiste. Donc ça peut vraiment être un choix. Et à partir du moment où c'est choisi, où on arrive à trouver l'équilibre entre précarité et liberté, le rapport de force avec les employeurs est complètement différent, dont sur la question de la rémunération. Le fait d'être intégré à des syndicats, à des associations, permet de se connaître, de connaître des collègues, et donc du coup, de mieux connaître ses droits, déjà, tout simplement, c'est un peu la base. Par exemple, quand on est journaliste pigiste, on est en CDI, on est salarié, on fait donc partie à part entière de la rédaction. Et ça, je pense qu'il y en a encore qui ne le savent pas trop, particulièrement du côté des employeurs de presse, quoi. Donc, il y a vraiment cette question de la connaissance, de ne pas être isolé pour déjà améliorer le rapport de force, l'équilibrer un petit peu plus, quoi. Et connaître ses droits, ça fait vraiment partie du rapport de force. Après, au sein des entreprises, il faut vraiment se rapprocher des représentants du personnel pour ne pas se mettre en porte-à-faux, forcément, avec son rédacteur en chef. Parce qu'avec le rédacteur en chef, on parle du fond, on parle des sujets. Et quand on parle d'argent, ça passe par un autre canal. Donc, les représentants du personnel sont un levier essentiel, quoi.
Que deviendrait, ou peut-être... Que deviendra ce métier sans ces pigistes, Julie Lallouet-Geffroy? Vous avez l'image en tête?
Franchement, je ne sais pas du tout, parce qu'on le disait, là, il y a 30% des journalistes qui sont des journalistes pigistes, et les pigistes sont des journalistes qui sont souvent très ancrés sur leur territoire, qui ont des carnets d'adresses, qui sont aussi, comme je disais, spécialisés sur leur sujet. Donc quand un rédacteur en chef veut faire un magazine spécial handicap, il va pouvoir solliciter des journalistes pigistes spécialisés sur la thématique, qui ont leur carnet d'adresse derrière, et le mois suivant, faire un numéro spécial intelligence artificielle. Forcément, en rédaction avec ces journalistes habituels, tous ces journalistes ne sont pas spécialisés de tout. C'est humainement pas possible. Donc un journal sans pigiste, ça me semble très compliqué. Parce que derrière, il y a la question de la qualité de l'information et de la diversité de l'information, quoi. Donc non, la presse sans pigiste, je vois pas. Ou en tout cas, on perdrait vraiment en qualité.
Et vous, comment faites-vous, puisque vous êtes pigiste, hein?
Moi, en fait, j'ai la chance d'avoir là des commandes d'articles qui sont reparties. Je sais que là, je vais avoir des mois creux pendant l'été. C'est un peu pour moi la période creux. C'est pas le cas de tout le monde. Parce que ça dépend vraiment des spécialités des uns et des autres. Ceux qui sont en sport ou en culture n'ont pas du tout le même été ou la même rentrée, la même organisation que ceux qui vont bosser, par exemple, sur les questions de science ou de santé, quoi, ou en presse généraliste. Donc moi, pour ma part, je suis pas à plaindre, pour le coup.
Tant mieux.
Oui. Je souhaiterais que ce soit pareil pour absolument tous les journalistes.
Exactement.
De France.
Merci à vous, Julie Lallouet-Geffroy, coprésidente du collectif Profession Pigiste. Je vous souhaite un bel été. Dans deux minutes, l'histoire de Keren El-Kaïm, pigiste littéraire, qui a su réagir quand se sont enchaînées les emmerdes. À tout de suite.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Et bonjour Keren El-Kaïm.
Bonjour Pascal.
Nous parlions il y a un instant des difficultés rencontrées sur fond de crise sanitaire par les journalistes pigistes. Eh bien avec vous, un exemple en chair et en os. Vous êtes journaliste pigiste littéraire. Depuis combien de temps ?
Ça fait une dizaine d'années maintenant.
Et ça va de pire en pire, diriez-vous, la situation ?
Exactement.
Ouais. Donc interview d'auteur, critique de livre, en quoi consiste votre activité ?
Alors ça consiste principalement à faire des portraits et des interviews d'écrivains, également des conférences avec eux, des écrivains du monde entier puisque je suis spécialiste de la littérature étrangère et puis des critiques de livres également.
Donc en temps normal, ça va ? Vous avez votre petit réseau, vous parvenez à en vivre peut-être pas confortablement, mais enfin ça va ?
À peine.
Oui, à peine. C'est déjà difficile.
Exactement.
On peut donner des chiffres ou ça ne nous regarde pas ?
C'est pas que ça ne nous regarde pas, c'est un peu comme les intermittents, c'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement fluctuant. Il peut y avoir des mois à 1000, des mois à 2000, des mois à zéro, donc ça varie vraiment du simple au double.
Et puis arrive évidemment ce fameux coronavirus, arrive le confinement. Où le passez-vous, votre confinement ?
Je l'ai passé à Paris, dans mon loft de 20 mètres carrés.
Duplex quasiment, non ?
Quasiment.
Sans extérieur, évidemment, comme des tas de gens hein, dans les villes. Parfois, il n'y a pas d'extérieur, ça arrive à Paris. Et il se trouve que vous subissez quelques écroulements dans votre activité professionnelle.
Complètement. Dès le premier jour du confinement, je perds tous mes boulots du jour au lendemain, puisque comme les librairies ferment, les journaux prennent la décision de ne plus parler de culture, de ne plus parler de littérature, de cinéma ou de théâtre.
C'est très net. Plus de demandes, ça n'existe, la culture n'existe plus.
Exactement.
Et vous, à l'époque, vous êtes pigiste pour quelle parution ?
Je suis pigiste à Livre Hebdo, au magazine littéraire qui vient d'être racheté par Lire, à Grazia qui vient de s'effondrer. Donc c'est un peu le cumul des mandats.
Oui, c'est comme vous dites. Et dans les faits, donc, vous retrouvez avec...
Zéro euro.
Zéro euro. Et pas d'aide ?
Non. Pas d'aide, surtout que je cumule aussi parce que je suis belge et que l'Europe n'existe hélas pas encore pour ce genre de statut pour les pigistes qui travaillent pour différents pays ou différents journaux.
Oh, mais si vous êtes belge aussi...
Non, je sais.
Alors, les festivals littéraires, évidemment, sont annulés, ce qui représente quelle partie de vos rémunérations globalement ?
C'est une grande partie quand même. Il y a aussi toutes les conférences. Je travaille notamment à la Maison de la Poésie qui ferme ses portes, évidemment, du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment un arrêt net de toute la profession.
Alors, plus de revenus, confiné dans votre petit espace. Et là, que se passe-t-il ?
Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup pensé à votre livre « Mute » parce que je me suis dit, du jour au lendemain, on nous enlève notre voix alors qu'on a encore plein de choses à dire. Je n'avais aucune envie de faire un journal du confinement dans 20 mètres carrés, de m'extasier devant la vaisselle ou l'aspirateur que fait tout le monde. Et je me suis dit, il se passe un événement historique, quelque chose de vraiment incroyable à travers le monde. Qui peut en parler ? Eh bien, ce sont les écrivains du monde entier qui sont des témoins du monde habituellement, non pas pour parler de leur nombril ou de leur confinement, mais de ce qui se passe dans leurs pays respectifs.
Et alors, depuis chez vous, vous bricolez, il suffit d'un ordinateur et d'un téléphone, c'est ça ?
Voilà, alors que j'étais vraiment pas du tout une professionnelle de ce secteur-là. Les réseaux sociaux, je ne savais même pas ce que c'était un like. Et là, tout d'un coup, je découvre qu'avec une vidéo, on peut se trouver dans le monde entier, rentrer dans les maisons des écrivains et des personnalités et aller à leur rencontre.
Donc, vous créez une chaîne YouTube ?
Voilà, qui s'appelle Sursis Story, parce qu'on vit désormais dans un monde en sursis, dans un monde en suspens, et Story parce que tout le monde a une histoire à raconter.
Interview de grands écrivains aux quatre coins du monde. Exemple, on va écouter ça avec l'écrivain Philippe Claudel, joint par vos soins.
C'est que paradoxalement, dans ce moment où on se dit qu'on a plus le temps, je lis beaucoup moins. Et je ne m'explique pas cela. Je ne comprends pas pourquoi je lis aussi peu en ce moment.
Ça, c'était évidemment pendant le confinement. Combien d'interviews avez-vous réalisées depuis vos 20 mètres carrés en ligne, en bricolant ?
Alors, je viens de mettre ce matin en ligne la 53e.
Des noms ?
Tout à fait. Alors, il y a des noms très connus comme Russell Banks, comme Colm McCann, Cyrus Vette, Sophie Oksanen. Et côté français, il y a Philippe Claudel, comme on vient de l'entendre, Julia Kristeva, Agnès B., Irène Jacob et plein d'autres encore, des connus, des pas connus, des écrivains, mais aussi des gens qui nous parlent du terrain. Donc ça peut être la juge Isabelle Rome, par exemple, qui nous parle des violences conjugales et de tout ce qu'elle a dû mettre en place en urgence à ce moment-là.
Et vos efforts ont été récompensés ?
Oui, parce que ça rencontre un énorme succès. Ça a été à l'encontre de tout ce qu'on fait sur les réseaux, à savoir un format long d'une vingtaine de minutes. Et puis, j'ai aussi été repérée par le Marathon des mots à Toulouse, avec lesquels je travaille habituellement, qui ont dû annuler la version de juin et qui m'ont demandé dès lors d'interviewer des écrivains également français, étrangers pour eux.
Eh bien, très bien. C'est un bel épilogue à votre histoire.
Voilà.
Merci beaucoup, Keren El-Kaïm, pour cette histoire-là. Vous n'êtes pas la seule, figurez-vous, à vous réinventer. Alors, je rappelle quand même sur Systory, si vous voulez aller voir ces interviews au long cours d'écrivains, parfois, souvent internationaux, sur YouTube, sur Systory, par Keren El-Kaïm. Merci à vous. Je disais que vous n'étiez pas la seule à vous réinventer. Mathieu Gallet aussi, sa plateforme de podcast Magellan se repositionne. Il est notre prochaine invité sur Europe 1.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Dans une autre vie, il a dirigé l'INA et aussi Radio France. Désormais à la tête de la plateforme de podcast Magellan, Mathieu Gallet en propose une nouvelle version et s'inscrit à The Voice. Retourner son fauteuil coûtera 7€ par mois. Bonjour Mathieu Gallet.
Bonjour Pascal Clark.
Vous doublez la sortie de la nouvelle version de Magellan dont on va parler, d'un essai paru aux éditions Débat Public intitulé « Le nouveau pouvoir de la voix, comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale ». C'est votre cas au quotidien, Mathieu Gallet, vous parlez beaucoup à vos assistants vocaux ?
Alors moi je ne suis pas très assistant vocaux, mais heureusement dans ce livre, il n'y a pas que les assistants vocaux et ce n'est pas une ode aux assistants vocaux. J'explique en fait dans cet essai comment la voix revient dans nos vies, alors à travers les technologies comme celle-ci, comme le commerce conversationnel, si vous avez vu
Qu'est-ce que c'est ?
Carrefour a fait un accord avec l'assistant Google, aujourd'hui vous pouvez commander vos courses en parlant à votre assistant et ça vous les livre directement. C'est aussi des choses beaucoup plus simples comme les notes vocales. Vous savez, ces SMS audio, les jeunes en raffolent, mais il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les personnes qui sont parfois les moins adeptes des nouvelles technologies. Je pense aux personnes âgées, ça permet effectivement, moi ma grand-mère qui aujourd'hui ne voit plus quasiment, elle ne peut plus envoyer de SMS. 87 ans.
Ah oui.
C'était une grosse lectrice et le fait de ne plus avoir la vue, elle ne peut plus envoyer de SMS, elle fait des notes vocales, elle fait ses SMS audio. Donc ça permet de maintenir un lien, ça permet de maintenir une insertion, j'ai envie de dire, dans son environnement, dans la société.
Alors comment c'est venu et pourquoi c'est venu ? Parce que c'est la thèse de votre livre, plus le temps passe, écrivez-vous, plus nous parlons et moins nous touchons. Est-ce que cette évolution platonique est une bonne nouvelle ?
Alors je pense qu'en plus avec la crise sanitaire du Covid qu'on a tous connu, où surtout faut faire attention de ne plus toucher les choses, je pense que oui, l'audio et la voix a un bel avenir devant elle. Ça s'est répandu tout au long de ces dernières années. Moi, j'avais fait un voyage quand j'étais à Radio France avec mon équipe dans la Silicon Valley début 2017 et on est allé à Seattle aussi voir Amazon. Et c'est là où on a vu les premiers Alexa, donc les premiers assistants personnels.
Qui ont des grandes oreilles au passage.
Qui ont aussi des grandes oreilles.
Oui, qui nous écoutent.
Qui nous écoutent.
Donc, c'est pas
qui
non plus la panacée,
exactement
hein.
Ce qu'on fait.
Ouais.
Et c'est à la fois quelque chose d'assez fascinant et en même temps quelque chose d'un peu inquiétant, notamment je pense aussi pour des radios comme aujourd'hui on est à la radio. C'est ce que j'explique aussi dans le livre. Je pense que les plateformes digitales qui connaissent tout grâce aux data, grâce aux données de leurs utilisateurs, donc toutes nos habitudes de consommation, en face, vous avez des radios qui, elles, sont mesurées tous les 2-3 mois par médiamétrie. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire quand vous devez valoriser la publicité qui fait vivre une radio commerciale comme Europe 1, en face d'une plateforme comme Spotify, qui rend ses podcasts gratuits, mais qui fait de la publicité aussi, Spotify connaît précisément ce que vous avez écouté et ce qu'il va falloir vous pousser comme publicité.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on connaisse les audiences radio immédiatement, comme ça se passe à la télé? C'est aussi une sauvegarde pour la radio de ne pas savoir à la minute près ce qui fonctionne, non?
Alors, c'est une sauvegarde, je pense, pour l'auditeur, qui peut se dire, au moins, on ne sait pas si j'écoute Europe 1, RMC ou Radio Courtoisie.
Je pense que c'est quand même là.
Non, mais voilà, j'exagère, je force le trait. Mais pour les radios qui aujourd'hui, en fait, sont un peu dans le flou sur la monétisation de leur audience, c'est un vrai danger. Et je pense que Spotify peut être à la radio ce que Netflix est déjà aux télévisions.
Alors, trop d'écran, hein, c'est ça votre constat, Mathieu Gallet, avec les dangers du visuel. Vous écrivez fort justement « l'image fige l'imaginaire ». Pourquoi alors avoir introduit les caméras dans les studios de Radio France quand vous dirigiez la maison? C'était pour satisfaire les GAFAM, les géants du numérique?
Alors c'était surtout pour utiliser les réseaux sociaux comme vecteur de transmission de tout ce qui se dit à la radio. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie du public qui nous écoute en direct ce matin. Et puis il y a une partie qui ne nous aura pas écouté, mais qui va découvrir notre entretien à travers le compte Twitter d'Europe 1, à travers les différents réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que
Mais du coup, vous avez un peu flingué l'imaginaire.
Alors c'est vrai que c'est un peu tué l'imaginaire. Moi, je sais que quand j'étais jeune étudiant, que j'écoutais Pascal Clark sur France Inter, j'imaginais, Pascal Clark. Maintenant, voilà, je sais qui est Pascal Clark.
La voix, c'est aussi la voix intérieure, écrivez-vous. Petite confidence dans ce livre, le fameux bureau de France, de Radio France, dont on vous a reproché d'avoir fait rénover le décor en bois de palissandre, ce qui coûtait un bras, et ce, en pleine annonce de plan social dans la maison, eh bien, vous aviez eu un pressentiment, c'est votre petite confidence, vous ne vouliez pas l'occuper, ce bureau.
Oui, je parle aussi de cette voix intérieure qui est l'intuition, au fond. Et c'est vrai qu'en arrivant à Radio France en 2014, mon intuition était de ne pas intégrer ce bureau historique, qui est classé d'ailleurs depuis, comme un signal pour dire, voilà, en fait, on ouvre les portes et les fenêtres. Voilà. Et je n'ai pas voulu y aller, et on m'a dit dans mon entourage, non, tu arrives, tu as 37 ans, tu dois occuper ce lieu de pouvoir, parce que le bureau, c'est l'incarnation du pouvoir, et j'aurais mieux fait d'écouter ma petite voix intérieure
Seriez peut-être encore, du coup.
Non, parce que finalement, c'est pas ça qu'on m'a reproché, mais c'est vrai que symboliquement, le mal est fait.
On va parler de Magellan qui évolue complètement, c'est votre plateforme de podcast. Alors, j'ai écouté votre dialogue avec votre associé Arthur Perticoz, et j'ai compris un mot sur deux.
Il faut une vision. Pourquoi nous existons?
Parce que l'on veut proposer une expérience d'écoute globale. Ce que l'on veut, c'est que les gens vivent une vraie complémentarité, une complémentarité indolore entre ces trois pans. Le contenu, ce qu'on arrive à partager par nos programmes. L'application, cet objet digital qui permet de vivre notre expérience. Et notre discours, notre communication, notre manière d'exprimer à quoi on sert.
Alors, heureusement que vous êtes là ce matin, Mathieu Gallet. Vous allez faire la traduction simultanée et nous expliquer. Ce sera après ça sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média.
9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
Mathieu Gallet a un point commun avec Emmanuel Macron, il se réinvente. Désormais disponible la deuxième version de votre plateforme de podcast Magellan. Pourquoi la première a-t-elle échoué, la première version?
Alors, ce n'est pas un échec, c'est une courbe d'apprentissage entre ce qu'on a lancé l'année dernière, qui était une plateforme à la fois d'agrégation de contenus gratuits et de production de contenus originaux avec une monétisation via l'abonnement pour les seuls contenus originaux, puisqu'on ne gagnait rien sur la partie gratuite. Et ce qu'on a vu au bout de 6 mois d'exploitation de l'app Magellan, c'est qu'en fait, le public venait de plus en plus pour les contenus originaux payants. Donc ça tombe bien puisque c'est les seuls qui nous font vivre. Et que finalement, le replay de la radio, les podcasts gratuits créent moins d'engagement, moins de fidélité de la part des utilisateurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la fidélité. Et donc, on a simplifié le modèle et on a aussi simplifié la ligne éditoriale.
Oui, il n'y a pas que ça. C'est pas juste une partie payante, une partie gratuite.
C'était une partie payante, une partie gratuite. Oui, mais... Et puis, c'était une ligne éditoriale qui était, au fond, très large, puisqu'on a fait de la fiction, on a fait du documentaire, on a fait du talk, on a fait des programmes pour enfants, on a fait même de la méditation. Et en fait, face à ces divers genres audio, on a vu que tout ce qui était plus dans le domaine de l'inspiration, de la transmission, de savoir, crée plus d'engagement, plus de fidélité. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de se spécialiser.
Il y a cette deuxième version.
Exactement.
En même temps, on peut dire que si la première avait fonctionné, vous n'auriez peut-être pas évolué. Mais ce n'est pas grave.
Sur la partie éditoriale, il fallait évoluer. Parce que je pense que quand on est un média, on a besoin d'être une marque. On a besoin d'avoir une identité à soi, un ADN. Et on avait besoin de développer cet ADN chez Magellan.
Et puis, vous avez quand même essuyé des critiques quand vous avez agrégé, c'est-à-dire regroupé les podcasts des autres sans parfois demander d'autorisation. Mm-hmm. C'était une erreur ou...
Non, parce que c'est en fait un sujet qui était juridiquement, contrairement à ce que certains ou certaines ont voulu faire croire, était tout à fait bordé. C'était aujourd'hui, je pense, toujours une bonne idée. On a besoin, vous savez, une start-up, on a levé de l'argent, on a levé 10 millions d'euros, mais on doit se spécialiser très vite.
Oui, c'est une nécessité.
On peut pas être en concurrence avec des géants internationaux. Je parlais tout à l'heure de Spotify. Ce serait folie que de se mettre en face de géants qui coûtent 50 milliards de dollars en bourse.
Sauf qu'à un moment donné, vous l'avez imaginé, Google. On va être imaginer, en concurrence avec eux, au départ.
En concurrence, je ne sais pas, bien sûr, il faut toujours très ambitieux. Mais en tout cas, il faut se penser comme une offre complémentaire face à des géants internationaux.
Alors donc, place au podcast Maison, consacré au développement personnel, au partage d'expériences. Tiens, au passage, j'attends celui où vous m'apprenez à lever 10 millions d'euros, hein, Mathieu Gallet. J'espère que vous allez en faire un podcast.
Alors peut-être qu'on fera effectivement un podcast avec avec des fonds d'investissement, avec des gens dont c'est le métier. C'est vrai qu'on est quand même là dans un apprentissage plus inspirationnel aujourd'hui sur Magellan, puisqu'on a des masterclass avec Michel Hazanavicius.
Je plaisantais un petit peu, voilà, hein, c'était une façon de dire, mais comment faites-vous pour lever 10 millions d'euros ? Vous voyez, c'est un truc qui me dépasse.
Comment on fait ? C'est beaucoup de travail, contrairement à ce que les gens ont pu imaginer. On ne lève pas 10 millions d'euros comme ça.
Déjà, lever de l'argent, je ne comprends pas bien.
Oui, en fait, c'est de se faire financer. Une entreprise et faire financer une croissance, puisqu'aujourd'hui, ces 10 millions d'euros, ils financent à la fois la technologie, puisque Magellan, c'est une plateforme technologique, toute la technologie est propriétaire, mais c'est aussi un studio de production, puisque nous développons tous nos programmes en interne. Donc, c'est un catalogue de création originale qui est financé par la levée.
Alors, des voix qui racontent, des masterclass, on va écouter un extrait, je donne quelques exemples. Il y a le réalisateur Michel Hazanavicius, l'éditeur de presse Franck Hannaise ou la journaliste Marion von Rettergem. Petit aperçu, écoutez, on a choisi le réalisateur.
Bonjour, je suis Michel Hazanavicius, je suis réalisateur de films comme OSS 117 ou The Artist et vous écoutez ma masterclass, figurez-vous, sur Magellan.
You shall have an issue.
Je ne sais pas si ça vous est interdit, mais ça vous est totalement étranger, quoi. Et ça vous semble impossible et vous avez toujours l'impression de dire « mais moi je connais personne, et tout ça c'est pas pour moi » et tout ça. Et donc, la chance m'a amené à ce que le truc soit possible. Il y a un moment où vous vous décontractez et encore une fois, vous pardonnez, quoi. Bon, peut-être avec le fait d'avoir 5 Oscars aussi, je sais pas, mais...
Voilà, au moins, maintenant, c'est clair, il y a un positionnement. L'un de vos mots-clés, j'ai remarqué, Mathieu Gallet, c'est inspirant. Est-ce que vous pensez vraiment que l'expérience se transmet ?
Alors, l'expérience, chacun a la sienne. En revanche... Le modèle, l'expertise aussi, sont effectivement des savoirs qui peuvent inspirer et qui peuvent se transmettre. On a un programme sur un domaine qui n'a rien à voir, ma GPA, pas à pas. C'est un père célibataire, Rodolphe Blavy, qui nous explique comment il l'a développé. Et il est allé faire une GPA aux États-Unis, il a 2 enfants aujourd'hui. Moi, c'est un programme, par exemple, qui m'a vraiment... fait considérer, regarder cette problématique sociétale de la GPA d'un tout autre regard.
Rapidement, qui vous inspirez, vous, dans votre courte vie ?
Plus si courte, des chefs d'orchestre, parce que je reste toujours très mélomane, et puis des personnalités du monde des affaires. Il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Maurice Lévy, le patron de Publicis. Voilà, c'est parti des gens qui sont des sources d'inspiration pour moi.
Merci beaucoup, Magellan. Nouvelle version disponible, 7 € par mois, c'est payant maintenant. Et votre livre, Le Nouveau Pouvoir de la Voix. Merci Mathieu Gallet d'être passé par Culture Média. Et j'en profite pour souhaiter une bonne journée à tout le monde, très inspirante.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.